questions, puisque nous avons un beau parterre d'intervenants, et j'imagine qu'il y aura une foultitude de questions. Alors attention, on va commencer dans quelques instants, on attend Nadine, qui va me donner le top. J'ai votre top, Nadine ? J'ai le top de Nadine, alors c'est bon, on y retourne. Pour celles et ceux qui n'étaient pas parmi nous ce matin, je me représente, Michel Blespasco, ravi de vous accueillir pour ce colloque fibromyalgie proposé par l'association Fibromyalgie SOS. Juste avant la pause que nous marquerons aux alentours de 15h30, nous connaîtrons le nom du gagnant qui remportera la cure chaîne thermale du soleil à l'occasion du tirage au sort. Mais d'ici là, place à notre deuxième table ronde de la journée qui va être consacrée à la fibromyalgie et ses prises en charge, ses modes de prise en charge. Nous allons vous proposer un éclairage pour mieux comprendre ce qu'est la fibromyalgie, quel est son impact sur la vie quotidienne des malades et nous intéresser donc à ces modes de prise en charge. Pour nous en dire plus sur tous ces sujets, nous avons convié autour de la table les invités suivants que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, à ma droite, docteur Olivier Dubois, psychiatre, directeur de clinique psychiatrique et vice-président de la Société française de médecine thermale et directeur des thermes de Saujon. À vos côtés, le docteur Anne Dumollard, praticien hospitalier au centre de la douleur du CHUD de Grenoble, rhumatologue et algologue. Le docteur Patrick Gignès, responsable du département douleur psychosomatique maladie fonctionnelle au CHUD de Montpellier. Le docteur Julien Guérin, à ses côtés, médecin consultation douleur à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Thierry Thomas, qui est responsable des programmes complémentaires thérapeutiques au terme d'Alvar. Et enfin, le docteur Philippe Tournesac, qui est directeur médical de l'Institut de médecine intégrative, responsable de DU, de pathologie neurofonctionnelle, pathologie qui réunissent, si je résume, fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, hypersensibilité chimique multiple. Je vous remercie d'être présent et on va commencer par une première question toute simple, mais essentielle. Et on va essayer d'être assez concis là-dessus, docteur Dumollard. Qu'est-ce que la fibromyalgie ? C'est à vous de commencer d'ouvrir le bal de ces questions.
Ça marche, le
micro ? On vous entend.
Bonjour à tous. Eh bien, je suis ravie de...
Parlez bien près du micro, collez-le sous le menton.
Je suis ravie de représenter la gente féminine sur ce plateau.
La parité n'est pas vraiment respectée. Hein.
Non. Moi, je connais la fibromyalgie depuis une vingtaine d'années. Je dirais que, peut-être pour rebondir sur ce que Thierry Thomas disait tout à l'heure, sur syndrome maladie, je crois qu'il faut un peu dépasser cette... distinction, parce qu'effectivement, je pense que tu ne la fais pas, c'est nos institutions qui la font. Les patients savent ce qu'ils ont, nous on sait ce qu'ils ont, et je dirais, si on vous dit le syndrome, c'est pas dévalorisant quand on parle de syndrome, on peut parler aussi de syndrome parkinsonien, on peut parler de syndrome lupique, on peut parler de syndrome de Marfan, on peut parler de syndrome de Guillain-Barré, c'est toutes des affections qui sont prises en charge à 100% et qui sont très reconnues. Donc le syndrome fibromyalgique ou la maladie fibromyalgique, elle est maintenant bien reconnue, de la même façon que la Terre n'est plus plate, mais elle est bien ronde. Donc la fibromyalgie, donner une définition, elle est très récente, la définition, on en a beaucoup parlé. Le terme de fibromyalgie, il date de 1976, donc presque un demi-siècle que ce terme existe. Donc ce n'est pas quelque chose de récent. Il y a d'abord eu que des outils de classification. Les premiers critères de 90, ce n'était pas vraiment une définition, c'était des outils de classification de la maladie. Vous savez, avec les points douloureux, les 18 points, les fameux points. Et on parlait à cette époque que de douleurs et de points de pression reconnus qu'il fallait faire à l'examen clinique. Et je dirais qu'on peut peut-être plus facilement mettre une définition de la pathologie depuis les critères, cette fois diagnostiques, de 2010, où on parle bien d'une histoire de douleur. On ne peut pas avoir de fibromyalgie sans douleur. Depuis plus de 3-6 mois. Et dans ces nouveaux critères de diagnostic, l'important, c'est qu'on voit apparaître les autres symptômes, ceux qui vous gênent beaucoup dans votre quotidien, notamment la fatigue, les troubles du sommeil, les troubles cognitifs. Et puis tous ceux qui ont été cités dans l'enquête sur la cure thermale que vous avez citée tout à l'heure. Voilà, donc cette définition, elle permet de recouper toute la symptomatologie. Elle permet aussi de dire l'échelle de sévérité. Maintenant, on dit qu'il y a différents types de fibromyalgie, il y a des fibromyalgies plus ou moins sévères. Et dans ces nouveaux critères de définition, on voit les critères de sévérité qui apparaissent. Et puis, on dit aussi que dans cette définition, on doit avoir éliminé d'autres problématiques de santé. Non pas pour dire vous avez une fibromyalgie parce que vous n'avez rien d'autre, mais vous avez une fibromyalgie parce qu'on reconnaît les critères de celle-ci et parce qu'on a vérifié que vous n'ayez rien qui pourrait éventuellement donner le même type de problème.
Merci, docteur Dumola. Je me tourne à notre psychiatre, docteur Dubois. Quelles sont les caractéristiques psychologiques et somatiques de la fibromyalgie?
Oui, pour reprendre un peu ce que disait le docteur Dumoulard, effectivement, il y a beaucoup de liens entre l'affection fibromyalgie et les affections psychologiques et psychosomatiques. On en a parlé un peu ce matin, la dynamique hein, qu'il y a entre une douleur et une pénibilité psychologique. Hein, donc c'est toujours la difficulté de savoir lequel est la poule et lequel est l'œuf. Hein, est-ce que ma douleur me rend déprimé parce que j'en ai marre de souffrir et que je vois pas de perspective, ou est-ce que c'est parce que j'ai un affaiblissement psychologique depuis quelques jours, par exemple, où il s'est passé des événements dans ma vie qui m'ont affaibli psychologiquement, que mon seuil de résistance à la douleur a baissé et que du coup ma douleur est plus importante, voyez. Et nul doute que tout ce processus est lié. Vous voyez, il y a une espèce, comme tout à l'heure, le phénomène d'amplification. Hein. Donc c'est vrai que voilà, si demain vous avez une douleur chronique pendant 3 mois, vous allez avoir sans doute une répercussion dans votre état psychologique qui va se traduire par un sentiment de découragement, de démotivation, de la vie n'est pas drôle, etc. Donc c'est très difficile de distinguer les deux choses. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des liens qui sont absolument mathématiques, si je puis dire, ou indiscutables dans toutes les études. Par exemple, là, je prenais des résultats eh bien, sur le sommeil, troubles du sommeil, 90% des fibromyalgiques ont des troubles du sommeil. Troubles dépressifs, 56% des patients, dans l'étude que je regardais l'autre jour, avaient eu un état dépressif peu de temps avant ou en cours. Et pour les troubles anxieux, c'était 63%. Vous voyez, bon, voilà, c'est une référence, il y en a d'autres, hein, parce qu'il y en a, c'est même plus fort, il y en a qui disent 75% de lien entre les deux affections pour la dépression. Bon, on sent qu'il y a une vraie corrélation entre l'anxiété, la dépression et la douleur du fibromyalgique. Mais encore une fois, avec la difficulté de savoir parfois quel est le processus qui a déclenché. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que, parce que c'est vrai que moi je vois des patients qui ont peut-être plus le versant entre guillemets psychiatrique, puisque c'est ceux qui viennent nous voir à Saujon, qui ont plus cette approche ou cette compréhension de la maladie, cette perspective de la maladie. Beaucoup de patients expriment le fait que il y a un lien entre des événements de vie qui leur arrivent, par exemple un stress plus important au travail, une surcharge d'activité ou des émotions importantes dans leur environnement, avec des soucis avec des enfants, un conjoint, etc., et le déclenchement de la maladie, enfin le déclenchement ou l'aggravation de la maladie.
Je voudrais qu'on règle le petit problème de l'arsène en régie, si vous voulez, pour les micros, ce sera gentil. Docteur Géniès, est-ce qu'il existe un profil de fibromyalgique avec des caractéristiques particulières?
Quand on a voulu tester les éléments particuliers de psychologie, les tests, souvent, pour expliquer cette maladie, ne montrent pas 100% de patients qui auraient un profil particulier. Parce qu'on voit des gens dans le profil psychologique, puisqu'on vient d'en parler, qui sont de tendance un peu triste, dépressive, 30% qui sont trop des battants, des espèces de violence au rapport au monde, et 30% qui ont besoin d'exprimer des choses de leur vie que par ces symptômes variés, complexes et souvent difficilement soulagés. Donc c'est le profil psychologique, on les fait nous en test informatique, et on voit ces trois types de populations. Des gens un peu exubérants, des gens plutôt discrets et réfrénés dans leur fonctionnement, et des gens qui vont trop être violents au monde. C'est ça qui est très particulier. Donc je dirais même que pour lier les deux recherches de définition, la fibromyalgie est certainement un état d'être au monde. Un état d'être au monde qui fait que ça interagit sur son corps tel qu'il a été construit face au monde extérieur et son état émotionnel tel qu'on l'a construit aussi vis-à-vis des événements qu'on a traversés. Et cette globalité de soi au monde donne une disharmonie. On ne se trouve plus dans une capacité de faire ce que les autres en moyenne font. Par les gestes quotidiens, par la régularité jour-nuit, par l'investissement, par le rapport à la sensorialité, le voir, mémoriser, écouter. Il y a toute une différenciation dans la construction de cette interface soi et le monde extérieur. Et c'est cette disharmonie qui est peut-être une autre nouvelle, c'est en vous écoutant que je pense ça, une autre nouvelle définition de la fibro qui ne sont pas cantonnées que défaillance du corps ou défaillance des systèmes de contrôle.
Donc trois profils différents qui sous-entendent trois prises en charge différentes.
C'est ce qui peut-être donne un échec de la prise en charge globale. C'est qu'on n'a pas su individualiser, alors on ne peut pas le faire pour chaque patient. Finalement, chaque patient le fait mieux pour lui-même. Mais quand on lui a découvert les moyens d'aller vers la recherche de ce qui va l'améliorer. Mais peut-être qu'il faudrait un peu plus différencier des groupes en fonction de ce type de rapport au monde. Comme il y a des gens dans le sud qui ne sont pas pareils au sein du nord, des gens qui ont des vies de transplantés, d'autres des vies d'hyperactifs, des sédentaires. On voit combien campagne et ville ont des fois des réactions sociologiques différentes. On peut dire que pour la santé, dans des maladies comme celle-là, chroniques, tout ce background, ce soubassement qu'on a tous dans notre culture a peut-être façonné une façon d'être à des maladies et qui ne relève pas d'un protocole unique. C'est très intéressant. On le voit quand les cures thermales mélangent les patients. On voit dans les groupes, quand il y a 10, 20 ou 30, 50 patients, on voit combien il émerge des comportements différents en fonction de la région d'Alsace, de Bretagne, du Sud.
C'est pas seulement physiologique, c'est aussi sociologique, géographique.
C'est aussi ça. Ouais. La France est un pays tempéré, et finalement, on trouve tout ce type de différenciation par culture et par région qui se trouve dans d'autres domaines. Et je pense que là, la médecine est peut-être en retard dans cette vision culturelle d'un rapport inadapté, donc de souffrance, de notre corps à les actes de la vie quotidienne, le rythme jour-nuit, la fatigue au travail.
Docteur Guérin, où en est la recherche sur la fibromyalgie et notamment une petite synthèse peut-être de votre part de l'étude, l'enquête réalisée, on en parle beaucoup, réalisée avec Fibro SOS sur ces 4500 personnes.
Alors, bonjour à tous et à toutes, et je vais m'exprimer sur les choses que je connais, sur lesquelles j'ai travaillé. Donc effectivement, il y a un questionnaire qui a été mis en ligne fin 2014, qui a été réalisé par Fibromyalgie SOS en collaboration avec la FLAR, qui a tenté de faire un état des lieux sociodémographique sur les traitements, sur les prises en charge, le diagnostic, enquête, assez large.
Enquête sociétale.
Enquête sociétale et même avec des parties médicales, un auto-questionnaire avec une autodéclaration du diagnostic et puis des techniques utilisées sur plus de 4500 patients, ce qui, sauf erreur de ma part, n'avait pas été fait en France, et même dans le monde, il y a assez peu d'enquêtes de cette ampleur-là, ce qui a permis de colliger donc beaucoup de données sociodémographiques, médicales, etc., que l'association a déjà publié sous forme d'un livret qui est très, très, très clair. Et nous, nous avons essayé ensuite, alors c'est vrai qu'on avance un petit peu lentement, mais de trouver ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des groupes de patients particuliers, ce qui un petit peu la suite de ce que disait le docteur Gignès, pour voir si effectivement on a des données sociaux, des éléments sociodémographiques, culturels, etc., ou des revenus qui peuvent intervenir dans la gravité des symptômes, avec des critères d'évaluation comme le questionnaire d'impact de fibromyalgie KIF, hein, qui est connu, qui ont été utilisés. Bon, alors je ne peux pas les détailler aujourd'hui parce qu'on parle de beaucoup de choses, mais effectivement on a trouvé, alors on a recueilli donc des données sociodémographiques qui ont permis de donner un genre de portrait robot un petit peu du patient et donc de la patiente fibromyalgique, puisqu'on a 93% de femmes dans cette enquête, et puis des données sociodémographiques, comme par exemple, il y a beaucoup de données, donc je ne peux pas les détailler ici, mais les faibles revenus, par exemple, c'est un facteur qui impacte la qualité de vie chez les fibromyalgiques, peut-être par les difficultés à la prise en charge médicale et par les techniques non médicamenteuses. Voilà, ça par exemple, c'est un élément. Le tabac semble aussi avoir une incidence, même si ça n'a pas été mis clairement en avant jusqu'à maintenant. Et puis, donc voilà pour cette enquête, donc ça va faire l'objet de publications d'articles qui sont en cours. Moi, je l'ai déjà présenté au congrès de la SFETD en novembre dernier. Je les ai présentés, ces résultats. Donc, on est en train d'écrire un article dessus. Et bon, pour cette enquête, je vais peut-être m'arrêter là. Et puis, juste pour ce qu'on fait chez nous à Saint-Antoine, en corrélation avec Cochin Hôtel-Dieu, on a un protocole pour parler de la recherche active, parce que la fibromyalgie, ça peut paraître compliqué à explorer d'un point de vue scientifique, mais on a un protocole, nous, en ce moment, on inclut encore des patients et des patientes, sur l'évaluation de l'intérêt des techniques d'ostéopathie dans la prise en charge de la fibromyalgie, avec deux groupes, en simple aveugle forcément, puisque le praticien sait ce qu'il fait, avec technique manuelle non ostéopathique versus technique ostéopathique. L'objectif étant d'avoir 150 patients, donc 75 dans chaque groupe, et de pouvoir avoir des données pertinentes scientifiques sur l'intérêt de ces techniques non médicamenteuses comme ça a été dit précédemment, les médicaments ont un intérêt, on sait, limité dans ces.
On en parlera de cette approche médicamenteuse. Voilà. Un protocole qui est toujours en cours. Hein.
C'est en cours, oui, on inclut, toutes les semaines, on inclut des patients. Hein.
Revenons maintenant sur les origines possibles, les causes de la fibromyalgie. Avant de parler avec Dr Tournesac de la piste environnementale, on va revenir avec vous, peut-être Dr Gignès, sur le plan psychologique, enfance, trauma, problème familial.
Oui, là aussi, il ne faut pas faire de simplification en disant quand on a beaucoup eu de stress dans l'enfance, on aura automatiquement la fibromyalgie. C'est aussi plus pondéré et plus unique, l'aspect existentiel. Alors, je suis content parce que les Américains qui ont fait aussi de larges études sur la recherche de ce qui pourrait être la cause d'un déclenchement comportemental ancien dans la fibromyalgie ont maintenant validé un questionnaire, M. Sullivan, un questionnaire d'injustice. Parce qu'ils se sont aperçus que dans cette maladie, la perception de l'injustice était très fortement pesante chez ces patients. Elle était pérenne pour le traitement et pour le suivi, mais elle était aussi antérieure dans des histoires de vie où des épisodes d'injustice ont été traités, gérés, avec une capacité de le surmonter en serrant les dents, en se crispant, en se contractant. C'est peut-être ça l'origine. Alors, le textionnaire de M. Sullivan, l'américaine, qui fait maintenant autorité pour cette détection de l'injustice, qui est à 72% présent de façon plus significative chez les patients fibromyalgiques, ne donne pas cette chronologie, cette biographie. Mais nous, notre expérience depuis 30 ans, où on voit 4 à 5 nouveaux patients fibromyalgiques par jour, on est obligé de rentrer dans cette histoire où on s'aperçoit que quand le sujet qui peut-être un jour sera fibromyalgique rentre dans la vie sociale, devient un élément social, c'est-à-dire un âge de raison entre 7 et 14 ans, il y a eu un premier facteur. C'est pour nous, on a essayé aussi de le prouver par des tests, des questionnaires, quand on l'a envoyé à 375 patients, on a eu la révélation que l'antécédent de l'enfance entre 7 et 14 ans avait vécu, surmonté, en serrant les dents, un épisode d'injustice. Et qui a été paradoxalement géré, presque refoulé, par contraction, par maturité précoce, par adaptation à la vie, mais sous contrainte. Et c'est ça qui va donner peut-être ce caractère qui, pendant les 10-20 prochaines années, chez ce patient qui a subi une première épisode d'injustice, de caractère d'hyperactivité sociale, personnelle, professionnelle, il veut aider tout le monde, mais sans se percevoir qu'il y a un épuisement, que la nuit il ne récupère pas de cet effort énorme et surhumain la journée. Et d'un seul coup, c'est ce que Sullivan a montré, l'injustice nouvelle va faire décompenser ce sujet, qui s'était suradapté, surinvesti au détriment du respect de l'harmonie du corps. Et donc là, ça c'est des, je ne sais pas si vous le ressentez vous, mais c'est ce qu'on retrouve à toutes les consultations quand on échange cliniquement avec les patients.
Donc il y aurait deux épisodes dans la vie du fibro, deux scénarios d'injustice dans sa vie.
C'est ce que nous racontent toute la journée tous les patients qu'on voit. Alors, le premier épisode d'injustice est complexe parce qu'il est souvent refoulé, donc nié, forclos, diraient les psychiatres. C'est-à-dire que c'est là qu'il a eu un effet de modification physiologique, neurophysiologique profond, qui va peut-être expliquer l'excès d'activité physique et peut-être un jour expliquer qu'une nouvelle injustice parasite le système de contrôle de la douleur, du sommeil, de la sensorialité, parce que c'est ça, le système de contrôle n'arrive pas à réharmoniser le corps. Et c'est ça qui devient maladie. C'est pas que le corps est avec de l'inflammation ou de la cancer ou de l'ischémie, c'est qu'il n'y a plus une, pour la douleur en tout cas, le système qu'on connaît bien depuis 30 ans, en même temps que la fibro, finalement on a découvert les mécanismes qui contrôlaient la douleur. Mais ces mécanismes, on n'a pas un bouton pour le réactiver. Par contre, il est naturel chez tout le monde. Et ce que je viens de vous raconter, ce que nous racontent les patients, est peut-être une voie de complémentaire d'explication du parasitage à 30 ans, 40 ans, à la suite d'un épisode d'injustice, parasitage presque informatique du logiciel de contrôle.
Docteur Dubois, vous êtes sur cette même ligne. C'est plus compliqué, c'est plus complexe que de dire c'est facile, j'ai été mal aimé, j'ai subi un trauma, et c'est la cause de ma fibro.
Oui, moi je trouve que c'est très intéressant ce que dit Dr Gignès. Moi-même, je ne peux pas répondre très précisément à cette question propre de l'injustice parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai étudié. Et c'est vrai qu'on voit que vous avez quelque chose en tête et vous l'avez recherché et vous l'avez retrouvé. Donc on voit l'importance quand on est un peu médecin scientifique de mettre des hypothèses et de les valider. C'est intéressant. C'est vraiment très intéressant et je m'y intéresserai à cette question. Après, moi, parallèlement à cette notion, il y a des choses qui sont assez proches. et qui sont quand même assez caractéristiques à mon sens de ce, qu'est, enfin, de ce que sont généralement les fibromyalgiques, du moins ceux qu'on rencontre. Des personnes, donc un peu cette idée aussi de, d'un manque de reconnaissance, hein, d'un sentiment de voilà. Et c'est vrai que cette activité, cette espèce de souci de la performance, c'est quelque chose qui semble vouloir recréer quelque chose, voilà, compenser, recréer quelque chose. Et souvent, les fibromyalgiques sont hyperactifs, mais ils sont aussi perfectionnistes. Hein, ils ont le souci vraiment de bien faire, et ils vont au bout d'eux-mêmes, sans limite. Hein. Et donc, on retrouve un peu cette idée quand même de je ne m'économise pas, j'irai jusqu'au bout, quitte à souffrir. Il y a quand même derrière ça, je pense, un manque d'estime de soi, quelque part.
On s'oublie par rapport aux autres.
Oui,
il y a un don de soi, du coup,
pour
les autres.
Il faut en faire plus que la moyenne pour être appréciable. Hein. Il y a quelque chose un peu de ça. Alors, ce n'est pas toujours dit clairement. Et moi, ce qui me marque aussi, et c'est pour ça qu'on est souvent proche de la dépression, ça rejoint, c'est des notions assez proches, c'est la notion de culpabilité qui est très, très, très souvent retrouvée chez les fibromyalgiques, qui souffrent, qui ont mal, mais qui sont évidemment pas bien reconnus, de faire, et puis bon, pas toujours valorisés, évidemment, du fait de leur maladie, c'est tout à fait normal. Et en plus, si vous voulez, ils ont un sentiment que, justement, ils ont tout donné, et au bout du compte, voilà, le résultat n'est pas exceptionnel. Alors, ils ont un sentiment de double peine, quelque part. Hein, ils ont la maladie, et en plus, ils ont la frustration de pas pouvoir donner. Et donc, il y a un double niveau de souffrance. Il y a le niveau de souffrance de la maladie, et il y a le niveau de souffrance de l'incomplétude, hein, de ne pas pouvoir aller au bout de soi-même, comme ils le voudraient, peut-être plus que la moyenne encore.
Alors, parmi les autres pistes, les autres causes possibles pour développer une fibro, il y a la piste, on cite souvent la piste environnementale, docteur Tonossac, prenez le micro, il est question d'électrosensibilité, d'intoxication aux métaux lourds. Que peuvent faire les patients concernés?
J'ai le droit de dire juste un tout petit
mot. Oui, rebondissez.
Je crois qu'on est parti sur la piste cause. Et en fait, en médecine, on fait une erreur, parce qu'en médecine, on est la dernière science qui continue à fonctionner sur un mode cartésien. Quand on aura abandonné ça, je pense qu'on fera des grands progrès en médecine et on ferait mieux de passer de la systémique. En systémique, on ne s'intéresse pas vraiment aux causes, on s'intéresse aux mécanismes. Donc en fait, on a un processus, on a effectivement, comme disait Dr Gignès, on a un processus de quelqu'un qui n'arrive pas à intégrer finalement un traumatisme. C'est ce processus d'intégration qu'on appelle le processus de deuil, hein, depuis des années, en fait c'est comme ça que ça s'appelle en général. Et quand les gens sont bloqués dans un processus comme ça, si vous avez un processus que vous n'avez pas intégré, si vous avez un deuil, quel que soit de votre âge, et que derrière vous avez un autre deuil qui s'accumule, forcément vous allez rentrer dans une problématique qui peut s'exprimer par différentes sensations, peut-être de la maladie, après on peut discuter, débattre de ça, mais en tout cas c'est ce procédé en fait qui n'a pas pu être mené à son terme, et effectivement qui va être bloqué souvent dans l'enfance. Alors après on peut remonter, certains vont remonter carrément dans la vie in utero. De toute façon, c'est toujours difficile de faire de l'interview de fœtus, donc c'est assez compliqué de valider ce genre d'hypothèse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est face à un processus, et c'est relancer ce processus qui va permettre en fait à la personne d'évoluer, de se sortir de sa problématique. Alors après, qu'est-ce qui fait qu'un processus se bloque? C'est un peu ça. Alors il y a plein de phénomènes. Moi, sur le plan psychologique, je vais aller très vite, puis je vous relaisserai la parole là-dessus. C'est vrai que ces processus d'acceptation, je pense que culturellement, on n'est pas très, très favorable à accepter et à accueillir tout ce qui se passe au niveau émotionnel. On parlait de la culpabilité. On est dans une société très encourageante de la culpabilité. Et l'accueil des émotions, ce n'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour. Donc je vais m'arrêter là. Je pense que ça, c'est une grosse partie du travail. Et après, pour revenir un peu sur les mécanismes, une fois que les personnes sont dans cette hypersensibilité, cette hypervigilance finalement qu'on peut avoir vis-à-vis de son environnement, parce que quand vous vous êtes fait taper sur les doigts une fois, deux fois, trois fois, la quatrième, vous vous méfiez de ce qui va vous tomber dessus. Et donc on retrouve cette sensibilité qui peut se manifester vis-à-vis de l'employeur, vis-à-vis du travail, donc beaucoup de relations au travail qui est très compliquée, vis-à-vis effectivement de cet environnement, alors qu'il peut être électrique, électromagnétique, qui rentre aussi dans le processus d'adaptation. Et nous, on a travaillé sur la sensibilité neurologique, c'est-à-dire quand les gens ont un système nerveux qui est fragile, ils deviennent plus sensibles à ces stimulations électriques. Est-ce que pour autant c'est la cause? J'en suis pas du tout convaincu. Que parmi les gens, il y ait des gens qui soient sensibles effectivement à des médicaments, on le voit bien dans nos patients, certains sont sensibles aux médicaments. Est-ce que le problème, c'est les médicaments à la base? Non, je suis convaincu que ce n'est pas les médicaments qui rendent fibromyalgique. Par rapport aux différentes hypothèses. Mais rien n'empêche effectivement de prendre ça en compte. C'est-à-dire que si on voit une personne qui est hypersensible à un médicament, je pense que de s'acharner à continuer à lui prescrire du médicament va lui faire du mal. Mais de la même manière, une personne qui a un environnement social ou familial ou physique avec des peintures toxiques chez elle, c'est aussi, à mon avis, du bon sens que de l'encourager à avoir un environnement plus adapté à son hypersensibilité.
J'aimerais qu'on parle un petit peu des répercussions psychofamiliales de la fibromyalgie. On parlait de l'environnement au travail. Quel est l'impact sur la vie quotidienne et sur l'entourage du fibromyalgique? Peut-être docteur Dubois là-dessus.
Bah, on en a un tout petit peu parlé ce matin. Il est pas négligeable, hein, parce que la douleur est quand même quelque chose qui est très handicapant, à la fois psychologiquement et physiquement. Et donc, le fibromyalgique, il va vivre un rythme de vie qui va être très différent. Il va réduire énormément son activité. Donc, il va falloir qu'il le fasse comprendre au conjoint. C'est la complexité, c'est la compréhension de la maladie de l'autre. Voyez, parce que c'est pas glorieux, quoi, hein, de dire à quelqu'un, voilà, je peux pas le faire. Hein. Donc, il va falloir entrer petit à petit dans un phénomène de compréhension, d'information, et il va falloir que tout le monde autour de du malade s'adapte à la situation du patient. Donc, il y a vraiment une problématique familiale, souvent, hein, qui se met en place. Moi, souvent, quand je vois des fibromyalgiques, je vois le conjoint ou parfois quelqu'un de la famille, et c'est vrai que c'est important de pouvoir parler, d'expliquer la maladie, d'en parler ensemble. Mmh. Et souvent, les conjoints se posent des questions, ils veulent savoir, ils veulent comprendre, et il faut trouver les modes de compréhension de la maladie. Et puis, on apprend des choses sur... moi, je donne un exemple qui me vient à l'esprit, c'est une dame qui vient me voir de temps en temps, et elle vient me voir, c'est une fibromyalgique, hein, depuis, je sais pas, 15 ans. On a eu du mal à trouver son diagnostic, puisqu'elle a fait dans différents endroits, puis un jour, elle est venue chez moi. Bon, j'ai vraiment fait le diagnostic, j'étais formel. Ça l'a beaucoup rassurée, on l'a traitée, ça l'a calmée, et puis, très bien. Et après, elle est venue me voir régulièrement, et à chaque fois qu'elle venait voir, c'était dans une situation d'urgence. Et quand je recevais les deux, parce que le mari l'accompagnait toujours, eh bien, c'est vrai que c'était étonnant parce qu'elle me disait la maladie recommence. Bon, la maladie recommence, elle est revenue. Bon, elle était toujours là, hein, mais elle est revenue en force. Bon, très bien. Et puis pendant une demi-heure, l'entretien, c'est la maladie, la maladie, la maladie, la maladie. Puis après, au bout de, enfin, une demi-heure, 20 minutes, petit à petit, on peut arriver à prendre du recul sur le symptôme et à réfléchir. Le conjoint est très utile à ce moment-là. À comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 jours, 3 semaines, 1 mois, qui a pu éventuellement favoriser le déclenchement de la rechute. Et bien là, à chaque fois, il y a un événement. Et on apprend que les enfants sont partis après les vacances d'été, mmh. et qu'évidemment, on se retrouve seul. Voilà, où on a fait un voyage, et puis ça a été merveilleux. Et puis du coup, il y a un gap entre le plaisir qu'on a à être en vacances et l'angoisse qu'on a à rentrer chez soi. Voilà. Enfin, là, je vous donne des trucs très, très, très précis, mais parfois c'est des choses plus évidentes encore. Hein. Mmh. Et donc je crois que c'est très important de comprendre l'environnement du patient, d'être complètement imprégné de l'environnement du patient pour pouvoir aider la personne à aller au mieux.
Docteur Gignès, peut-être sur cet aspect, sur l'impact de la vie quotidienne et sur la solitude aussi du fibromyalgique.
Oui, l'impact est énorme. Alors, il faut parler avec des gens, au point de vue du monde médical, des soignants, il faut parler avec des gens qui ont dépassé le cadre de dire les fibromyalgiques ne m'intéressent pas, ou j'y crois pas, ou c'est psychiatrique. Parce que là, bon, il faut éliminer ce genre d'accompagnement. Mais parce que le patient fibromyalgique, quand on vous côtoie, on sait combien l'intensité de l'handicap est énorme. Je me souviens toujours d'une présidente d'association autre que la vôtre avait malheureusement une fibromyalgie avec un cancer du sein métastasé. Et un jour, on nous a demandé de nous réunir, le comité scientifique, et il nous a dit dans le mail, il faudrait qu'on fasse la réunion vite du comité scientifique parce que j'ai mon cancer métastasé aux os qui continue à augmenter, et je ne sais pas si dans 3 mois, je serai là. Mais elle rajoutait dans son mail, cette phrase qui m'a vraiment étonné, mais la douleur de mon cancer des os métastasé, c'est rien par rapport à ma douleur de fibromyalgie. Vous voyez donc le vécu que vous avez, il ne peut pas être transmis. Il ne peut pas être transmis. Parce qu'il y aura un décrochage entre le diagnostic évident dont on comprend la cause des douleurs de quelqu'un qui a des métastases osseuses et la forme de votre corps qui n'a pas d'objectivation, d'examen pour le prouver, qui n'a pas une reconnaissance, j'allais dire, anticipée de maladie. Donc c'est le premier élément, ceux qui côtoient les fibros voient le handicap au quotidien de la qualité de vie altérée. Le deuxième élément, c'est que cette intensité de souffrance ne peut pas être transmise. ni à vos proches. Il faut faire attention de ne pas passer votre temps à vous épuiser encore plus, à essayer de les convaincre de l'intensité de votre souffrance au quotidien. Parce que tout le monde autour de vous va décrocher. Et puis, les gens autour de vous, surtout ceux qui vous aiment, vont avoir peur de cette douleur chez quelqu'un qui les aime. Et donc, ils ne vont pas l'entendre, ou ils ne vont pas réagir comme il faudrait par le coup de l'émotion. Donc, ou ils vont partir, ou ils vont être agressifs, ou ils vont être détachés. Donc, il y a une propension, un conseil de dire, voilà, ce que je vis, je le vis avec des gens soignants qui me comprennent, mais attention, le discours ne parasite pas les quelques liens sociaux ou affectifs que vous avez encore et qu'il ne faut pas rompre pour se retrouver encore plus dans la solitude.
Voilà. Mmh. Docteur Dubois, comment on peut permettre à l'entourage de mieux comprendre les ressorts de la maladie ?
C'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure encore là sur les stations thermales, sur l'éducation thérapeutique. Je crois que c'est vrai que c'est important que les familles se mobilisent et viennent chercher l'information, et viennent nous donner de l'information. Il y a vraiment... C'est des maladies, c'est des handicaps tellement lourds qu'il faut absolument que ce soit porté par tout le monde. Si c'est porté que par le malade, c'est pas viable en quelque sorte. Hein, le malade s'épuise. À un moment donné, il y a une rupture hein, entre soi et la vie extérieure. Donc, il faut vraiment créer des ponts, des liens, de l'humanité entre la personne qui souffre et les personnes de l'environnement. C'est très très important.
Sinon, on peut passer carrément à côté d'une personne souffrant de fibromyalgie.
Oh, la plainte fibromyalgique, elle est quand même exprimée généralement. Mmh. Enfin, j'espère que les fibromyalgiques l'expriment, mais il me semble qu'ils l'expriment. Parce que la douleur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas exprimer. C'est bon. Mais je suis tout à fait d'accord avec le Dr Gignès. Le problème, c'est que c'est très difficile pour l'extérieur, de comprendre cette douleur. Et pour les non-médecins, c'est très difficile. Pour les médecins, c'est très difficile, puisque beaucoup de médecins rejettent cette chose-là. Ou alors, ils traitent les malades de « oh, c'est encore le... ils nous embêtent ». Voilà. Bon, c'est vrai, le médecin, il a son activité quotidienne, il a ses malades, il a de la pression, et il se dit « ce malade-là, je ne sais pas quoi faire pour lui ». Ça fait 6 mois qu'il me parle de sa douleur, qu'est-ce que je peux faire pour lui ? Je n'ai pas de solution. Et c'est vrai qu'il y a un découragement du médecin aussi. La médecine, moi, la psychiatrie, c'est ce que je dis à mon personnel. Je leur dis toujours, votre problème, notre problème à tous, c'est de ne pas tomber dans le découragement, c'est pas tomber dans le désespoir. Il faut que nous, on garde la conviction qu'on peut aider les gens et qu'on va les aider. Et il y a des solutions. Ce n'est pas vrai qu'une douleur va rester à 9 pendant 25 ans. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est vrai pour la dépression aussi. Jamais un dépressif reste dépressif pendant 25 ans. Ça n'existe pas. On peut rester avec un fond dépressif, mais la dépression passe de l'échelle 9 sur 10 à 4 ou 5. Et ça devient beaucoup plus viable. Pareil pour la douleur. Donc, il faut vraiment garder cette dynamique d'espérance et trouver des solutions et puis accompagner les gens. Et tout le monde doit y participer.
Alors justement, oui, docteur Tournosac.
Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été développées pour l'accompagnement et qu'on malheureusement on diffuse pas assez suffisamment aux familles et aux médecins entre autres. Et il y a des règles relativement simples que je peux vous donner en vraiment quelques mots. D'abord, ne pas se mettre à la place de l'autre, parce que on peut pas, si on se met à la place de l'autre, on perturbe autant l'autre qu'on se perturbe soi-même. Ne pas croire qu'on peut résoudre le problème de l'autre, parce que ça, c'est une règle essentielle. Qu'on n'a pas besoin de surjouer, on n'a pas besoin de surfaire. Parfois, des contacts simples, ça suffit. Et puis après, il y a toute une partie de la gestion individuelle par rapport à quand on est accompagnant. Et la première étape, on parlait de culpabilité pour le patient, mais il faut parler de la culpabilité pour les accompagnants, qui est souvent très très forte, et c'est important de les déculpabiliser, de les accompagner là-dedans. La deuxième étape, on revient sur l'accueil des émotions, qui est quelque chose qu'il faut absolument développer de plus en plus pour que les gens puissent vivre leurs émotions et les accueillir, qu'il n'y a pas d'émotions négatives, elles sont toutes positives. Et puis la dernière étape, c'est de prendre du temps pour soi, c'est-à-dire de ne pas s'oublier dans cette histoire-là. Moi, j'ai fait très bref, mais il y a des règles aujourd'hui qui existent et qu'il faut suivre, qu'on soit médecin ou qu'on soit accompagnant familial.
Et en lien avec vos propos, vous avez publié un document, hein, « Comment vivre avec un fibromyalgique ».
Exactement, j'aurais justement envie de le dire, ça tombe très bien. Je proposerai peut-être de vous remettre, mesdames les présidentes et vice-présidentes, un document qu'on avait rédigé avec le docteur Françon, qui est rhumatologue à Aix-les-Bains. On a fait un document qui c'était les 15 points pour vivre avec un fibromyalgique. Ou un douloureux chronique, je crois que j'ai mis. Douloureux chronique, mais c'est bon, ça s'adapte parfaitement à la fibromyalgie. Donc il y a 15 points. Je pense que c'est des choses, si vous pouvez l'adresser et les gens peuvent
diffuser.
Le lire. Voilà, vraiment, à mon avis, ça vaut le coup que ce soit fait peut-être avec un médecin et que vous discutiez ensemble de ce document, point par point, et vous verrez qu'il y a vraiment des choses à travailler sur la relation autour de la maladie.
Alors, ouvrons le chapitre des solutions maintenant. Quelles solutions proposer pour diminuer les symptômes qu'on a abondamment décrits, améliorer le sommeil, la qualité de vie, peut-être, docteur Dumollard ? Il n'y a pas de solution simple et unique, j'imagine, il y a plusieurs prises en charge.
Il faut vraiment, vraiment comprendre qu'il n'y a pas de solution simple et unique, ça c'est sûr. Je pense que, moi ce que je dis souvent à mes patients, notamment les patients que je vois au début des symptômes, c'est que je pense que j'ai beaucoup de patients pour qui le plus dur ça a été le début de la maladie, bien que je comprends que probablement il y a des personnes qui vivent depuis des années cette maladie pour qui c'est difficile, mais parce qu'au début on est complètement désemparé. Effectivement, il n'y a pas de profil unique, mais on a quand même souvent des patients très investis, très travailleurs, très empathiques, qui s'oublient, qui ne savent pas prendre du temps pour eux, même si ce n'est pas effectivement univoque. Hein. Mais, donc, il y a un espèce d'ouragan qui tombe, de plus se reconnaître. Et au début, on cherche quelque chose pour sortir très vite de là. Et en médecine, on a l'impression que pour sortir très vite de quelque chose, il faut passer par les médicaments. Et c'est souvent... Moi, je pense que j'ai plus de personnes qui vont vers le médicament au début de leur prise en charge. Et puis que c'est les personnes qui rapidement comprennent, les patients comprennent que les médicaments ne suffisent pas à eux seuls, voire donnent plus d'effets secondaires que de bénéfices. Et que rapidement, il faut aller vers autre chose, voire moi, j'ai même pas mal de patients qui prennent plus de médicaments. Ce n'est pas une histoire de c'est bien ou c'est pas bien, ceux qui en prennent, ceux qui n'en prennent pas. Mais je crois qu'en développant les outils complémentaires, qu'ils soient nutritionnels, physiques, psycho-comportementaux, etc., thermaux, on peut petit à petit aller vers moins de médicaments pour plus de prise en charge annexe. Alors après, il y a plein d'outils.
On va revenir sur les autres prises en charge. Docteur Guérin, votre point de vue sur cette prise en charge médicamenteuse, qu'est-ce qu'il est proposé en milieu hospitalier ? Il n'y a pas de médicament qui a une autorisation de mise sur le marché contre la fibro, j'imagine ?
Voilà, donc ça c'est un peu, on est un petit peu coincé dans ce domaine-là. En France, en tout cas, effectivement, en termes d'AMM, on est un peu limité. Même en termes de preuves scientifiques, on a des preuves faibles d'efficacité ou d'efficacité faible. Et donc on sait tous effectivement que la prise en charge médicamenteuse ne peut pas être l'unique type de prise en charge. Donc l'intérêt c'est de développer effectivement d'autres types de prise en charge en ambulatoire, en hospitalier. Donc pour ça, d'où l'intérêt d'évaluer des techniques complémentaires et de voir si c'est un intérêt de les proposer et éventuellement de les prendre en charge, les rembourser, etc. À titre d'exemple, chez nous, effectivement, on fait effectivement des groupes thérapeutiques basés sur les thérapies cognitives et comportementales. Après, ça ne correspond pas forcément à tous les patients hein, de se lancer dans un travail de groupe. Il y a des gens qui sont plutôt réfractaires au travail de groupe, mais voilà, on a par exemple nous des groupes thérapeutiques, mais ça se fait dans plusieurs autres hôpitaux, hein, avec des séances sur 8 semaines d'affilée, une séance de 2 heures par semaine. On brosse un petit peu les différents champs de la fibromyalgie, avec la prise en charge, enfin, l'expression des symptômes, la prise en charge médicamenteuse, la prise en charge non médicamenteuse, les techniques physiques, etc., le ressenti psychologique. Et effectivement, dans la plupart des cas, on a l'impression d'avoir réussi à mettre en place une alliance thérapeutique avec le patient pour les personnes qui interviennent dans ces groupes-là. Et on espère pouvoir pu rendre aux patients qui ont participé à ces groupes un service thérapeutique avec quelque chose qui se prolonge dans la durée et qui puisse permettre aux patients de comprendre un peu mieux ses symptômes. Même si on l'a dit tout à l'heure, le but n'est pas forcément de faire comprendre de A à Z au conjoint, mais peut-être de faire passer des messages. Et ce qui peut être un peu étonnant, je fais un petit peu un aparté, quand un médecin pose un diagnostic de migraine, alors qu'il n'y a pas en pratique courante, il n'y a pas d'examen complémentaire qui dit, voilà, on voit une migraine sur l'IRM, etc. Il y a des examens un peu plus pointus qui sont hors des pratiques courantes qui montrent des choses, mais c'est assez étonnant, effectivement. On dit, voilà, le médecin, le neurologue ou le généraliste pose le diagnostic de migraine, puis on s'en tient là, voilà, le médecin dit c'est la migraine, les examens sont normaux, on a éliminé autre chose, c'est une migraine. Par contre, dans la fibromyalgie, effectivement, les patients eux-mêmes souvent réclament, et l'entourage réclame, mais tu n'as rien puisque les examens sont normaux. Donc effectivement, c'est assez difficile de... Alors on donne des documents, on a des documents qu'on peut effectivement à donner aux patients et que les patients et les patientes peuvent partager dans leur entourage pour essayer de faire comprendre qu'on peut avoir des syndromes dysfonctionnels, des douleurs donc, et qu'il n'y a pas forcément de preuves en imagerie qui sont objectivables.
Docteur Gignès, par rapport à ces symptômes qui sont variés, vous parlez de fibrofogue en anglais. Fog, le brouillard.
Oui, le brouillard. C'est vrai que les fibromyalgiques consultent aussi l'ophtalmo, l'ORL, le gastro, et chaque fois pour des symptômes qui sont des mauvaises régulations. Alors, même on peur de la mémoire qui flanche, donc des maladies d'Alzheimer, parce que ce n'est pas aussi réactif qu'avant. Et alors, c'est ces symptômes-là qui ont été intégrés dans la nouvelle définition plus poussée de la fibromyalgie, où on a intégré pas que le triptyque douleur, sommeil, fatigue, mais tous ces signes sympathiques ou parasympathiques. Finalement, le système nerveux qu'on appelle sympathique et parasympathique, c'est le reflet de notre disque dur, donc comment il a été construit. Et ce système nerveux sympathique et parasympathique fait l'efficacité de la vision, de l'audition. Il permet de percevoir ces caractéristiques de la sensorialité de façon adaptée pour que le cerveau les gère. Et on dirait que là aussi, ce système nerveux, de l'interface entre l'extérieur et le disque dur, n'est pas opérant, ne réagit pas comme chez les sujets qui n'ont pas la fibromyalgie. Et donc on a en effet cette lenteur dans la mémoire, dans la diction, dans la facilité de comprendre les événements, de se concentrer, des choses de la vie quotidienne qui paraissent des choses normales quand on n'a pas cette lenteur du système nerveux. Alors, ce n'est pas définitif, donc ce n'est pas un Alzheimer qui commence, c'est juste une mauvaise régulation. Et je pense que systémiquement, on peut se remettre dans des conditions, ce qu'on fait en cure thermale, où on retrouve une confiance dans ces symptômes-là et peut-être en voyant les autres, dans le groupe, en faisant fonctionner les autres symptômes. C'est important ça, parce que la rééducation maintenant s'appuie souvent par d'autres systèmes sensoriels. Bouger le corps pour améliorer sa mémoire, on sait que c'est utile. Et donc vous voyez qu'on peut contourner cet obstacle que constitue le symptôme. Je ne mémorise plus rien, je ne regarde plus l'écran comme avant, mais il ne faut pas se dire je vais me rééduquer, je vais peut-être ouvrir d'autres canaux de communication qui vont améliorer en synergie la vision, la mémoire.
J'en reviens juste pour refermer ce chapitre sur la prise en charge médicamenteuse. J'aimerais avoir votre point de vue, docteur Dumollard, sur la kétamine et la morphine. Est-ce que vous en avez prescrit? Est-ce que vous en prescrivez toujours ou pas?
Vous demandez à un médecin qui travaille essentiellement en thérapie non médicamenteuse les plus grosses médicamenteuses. Donc, la kétamine, je ne vais pas dire que je n'ai pas de patients sous kétamine. Je sais qu'il y a des équipes qui n'en font pas du tout. Je sais qu'il y a des équipes qui en font énormément. Je fais partie, c'est comme les élections, je dois être dans les derniers candidats, dans les 0,01% de kétamine pour mes patients. Donc, je dirais peut-être, vous diriez la même chose, pas de... Il ne faut peut-être pas faire de dogmatisme, jamais de morphine, jamais de... Mais la kétamine, c'est un anesthésiant qui agit sur certains récepteurs de la douleur qui sont normalement inactifs et qui sont activés en cas de douleur chronique. Et donc, cette kétamine vise à aller freiner ces récepteurs qu'on appelle les récepteurs NMDA. Et donc, il y a des propriétés antalgiques de la kétamine. Alors, j'en ai fait un tout petit peu, mais j'en prescris quasiment jamais, chez des patients avec qui j'avance pas du tout par le niveau de douleur, parce que je suis d'accord, j'ai quand même peu de patients qui restent à 9 sur 10 de douleur tout le temps, et on arrive quand même en général à trouver des outils, mais parfois je décroche pas, et ça m'est arrivé de proposer de la kétamine parce que c'est des patients qui se désocialisent, qui font plus rien, et que je me disais qu'il y avait pas grand chose à perdre, j'allais dire. Alors c'est vrai qu'on en parle aussi dans la dépression, maintenant on utilise la kétamine dans la dépression. Voilà, donc j'allais dire que un petit sous-groupe de patients, mais rarement. La morphine, moi, j'en prescris encore quasiment presque jamais, mais c'est pareil. Quelqu'un qui va me dire, tiens, mon médecin m'a prescrit de la morphine, il n'y a que ça qui marche, ça me fait du bien. Ce n'est pas moi qui l'a prescrit, parce que c'est les médecins qui renouvellent, mais je ne vais pas dire arrêter. Mais c'est vrai que la morphine, c'est un mauvais médicament de la fibromyalgie. D'ailleurs, dans les dernières recommandations de l'EULAR de 2016 sur la prise en charge de la fibromyalgie, la morphine, on appelle ça une recommandation forte contre son utilisation, contre-indiquée. Donc, sachant que dans ces recommandations de 2007 de l'EULAR, il y a uniquement 4 médicaments qui ressortent en recommandation faible d'efficacité. Donc, quand on dit que ça nous aide, ça va aider quoi sur 30% des symptômes, mais c'est quand même pas... C'est pas très efficace. Effectivement, on est déçu des traitements médicamenteux. Mais j'allais dire, c'est peut-être pas que dans la fibromyalgie. Et je pense qu'on est vraiment dans une médecine qui commence à élargir ses compétences sur associer plusieurs types de prise en charge.
Docteur Gignès, vous partagez un peu ce point de vue ?
Oui, oui, j'ai la même vision du problème. Et le problème qui est déjà posé maintenant, on a trop... Les médecins, devant la demande irrépressible de soulagement rapide des patients, les médecins se sont laissés souvent convaincre dans la prescription de médicaments morphiniques. Et alors, qu'ils continuent à pérenniser sur le long terme, c'est-à-dire 3, 6, 8 mois, 1 an, 2 ans. Nous, on a 6 lits d'hospitalisation dans lesquels il y a toujours 3 patients sur 6 atteints de fibromyalgie. Et sur ces 3 patients, il y en a un qu'on prend en charge pour le sevrage de morphine. Qui ont été prises de morphine pendant 1, 2, 5, 10 ans déjà. Donc, et sans effet, mais avec des troubles de la relation de concentration par rapport à la morphine, pas par rapport à la maladie. Et donc, on fait des sevrages lents, hein, progressifs. On fait comprendre aux patients que finalement, ça n'y a pas apporté beaucoup en douleur, vraiment pas du tout. Et qu'en enlevant cette morphine, il va être retrouvé une capacité, il va sortir du fog. Et le fog n'était pas dû à la fibromyalgie, mais dû à la morphine sur le long terme. Et il se trouve mieux. Déjà, en diminuant de 30%, ces patients qui ont été mis indûment sous morphine durant des périodes longues, ils se retrouvent plus clairs, avec une douleur presque la même, mais une façon de la gérer plus courageuse. Et alors, surtout, moi, on n'est pas contre, on ne peut jamais être contre quelque chose, parce que certains patients vont réagir. Alors, mais si vous avez la chance qu'un patient fibromyalgique réagisse à quelques milligrammes de morphine, une prise, des prises courtes, si ça lui permet de faire le levier vers la remise en forme, la remise en mouvement, et que vraiment, il trouve que quand il a cette petite quantité de morphine, sur de courtes périodes, ça lui fait sauter le pas, la fenêtre de tir pour genre bouger. Et ça peut être enclenché, mais pas pérennisé. Il faut que le mouvement va substituer à la morphine, et qui n'est pas une bonne béquille pour ça. Alors, comme on dit, quand on prend de la morphine par la bouche, votre morphine naturelle fait grève. Et il n'y a pas plus douloureux que quelqu'un qui n'a pas de réactivité naturelle de sa morphine intérieure.
Docteur Dubois, et après docteur Tournesac.
Oui, je pense que ce qui est... important peut-être à ce niveau-là de la discussion, c'est de dire que, et c'est vrai que c'est une complexité pour les patients d'intervenir, mais je crois quand même qu'à un moment donné, c'est là une vraie question que je pense que vous êtes en droit de vous poser en tant que patient. Je crois que les médecins, souvent, vous devez le sentir, ils ne sont pas toujours très clairs avec votre pathologie, parce que c'est compliqué, et je crois vraiment qu'il faut les comprendre, parce que vous parliez du fog, et effectivement, c'était assez éclairant, si je puis dire, peut-être contradictoire d'être éclairé par le fog, mais je construis cette éclairance, c'est-à-dire qu'on est, enfin, les médecins sont dans le fog quand ils sont face à un malade qui a des douleurs chroniques et qui revient toutes les semaines pour la même douleur. Bon. Et à un moment donné, ils ne savent plus quoi faire, donc à beau d'arguments, bah, ils disent oui, on prescrit un médicament tel. Bah, je crois que la question elle est très intéressante, parce qu'en fait, peut-être que vous avez vous aussi votre part d'éducation à faire aux médecins, d'une certaine manière, et lui dire, mais dites donc là, plutôt que de me mettre avec des médicaments de plus en plus importants, d'augmenter les doses, de doubler les doses, de rajouter des morphiniques, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver des alternatives, hein ? C'est ça qu'on est en train un peu de dire finalement aujourd'hui. Et c'est peut-être à vous, parce que les médecins n'ont pas toujours l'idée, finalement. Voilà, c'est des professionnels, c'est vrai, hein, ils ont une connaissance, mais parfois ils n'ont pas l'idée, ou ils n'osent peut-être pas aussi le dire, parce que c'est quand même compliqué de dire à quelqu'un, vous allez faire une cure, vous allez être hospitalisé, vous allez aller voir... Ça prend du temps aussi. Et donc, voilà, peut-être que vous pouvez avoir cette idée vous-même de dire aux patients, aux médecins, pardon, excusez-moi, je n'inverse pas complètement le rôle quand même, de dire aux médecins, écoutez, tiens, moi, je, plutôt que de prendre un morphinique, moi, je serais peut-être d'avis de tenter une autre action thérapeutique. Est-ce que vous pensez qu'il n'y aurait pas un sens à faire une cure thermale ou aller voir un spécialiste de la douleur ou, enfin, quelque chose, vous voyez, qui change un petit peu et qui nous permette de rentrer dans une autre dynamique.
Monsieur de Tournesac.
Désolé d'être toujours bavard, mais je crois que là, on est vraiment au centre du problème, pour moi. On est vraiment... Qu'est-ce qu'on soigne, finalement ? On va soigner, un cerveau, un système nerveux, qui est quelque chose qui est fonctionnel, qui est en mouvement permanent. Ce n'est pas quelque chose qui est stable. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps en train de dormir ou tout le temps en train d'être réveillé, tout le temps en train de digérer. On fait des choses en permanence. Et le concept du médicament, à la base, c'est je prends une molécule et je vais appuyer sur un bouton. Si effectivement mon bras est trop haut à un moment, parce que je lève trop souvent le bras comme je le fais aujourd'hui pour prendre la parole, et puis que quelqu'un me dit vous levez trop le bras, donc on va vous mettre un poids là sur le bras, et vous allez voir. Alors, je vais me promener comme ça, je vais être gêné tout le temps, ça ne va pas guérir mon problème de trop lever le bras. Eh bien, on est vraiment là-dedans, dans la fibromyalgie, on doit soigner quelque chose qui est fonctionnel, et le médicament tel qu'il est conçu aujourd'hui n'est pas conçu pour soigner du fonctionnel. Et donc c'est pour ça qu'on est vraiment au centre du problème, et c'est pour ça qu'on ouvre la porte sur tout un tas d'approches qui, elles, sont dans la fonction, depuis la cure thermale, depuis
la nutrition dont on va peut-être parler, la psychologie, où là on relance des processus.
J'aimerais qu'on entende M. Thomas. Dans votre établissement thermal, vous proposez un programme de prise en charge des fibromyalgiques à base de méditation et de cohérence cardiaque. Qu'est-ce que vous entendez par là et quels peuvent être les bénéfices pour les patients?
Là, on rentre tout à fait dans ce qui vient d'être dit, hein, puisque la cohérence cardiaque, c'est par exemple, c'est essayer de rééquilibrer le système nerveux autonome, ce fameux système sympathique-parasympathique, par des exercices respiratoires. Donc ça a été mis au point aux États-Unis, sur la base de l'étude de la variabilité du rythme cardiaque. Notre cœur ne bat pas de manière régulière tout le temps, donc il réagit en fonction des événements, en fonction de la vie quotidienne, en fonction de l'environnement. Et notre système nerveux autonome, sympathique, parasympathique, c'est lui qui va freiner ou accélérer. Or, il se trouve que dans le cadre particulier de la fibromyalgie, il y a un élément important dont on a parlé souvent ce matin et même maintenant, c'est le stress. Alors, le stress, pour beaucoup de gens, on l'assimile au stress du travail, au stress de la vie, au stress. Mais en fait, le stress, c'est un syndrome, c'est de l'adaptation. Donc, c'est un système d'adaptation générale. Et par exemple, la douleur est un stress, puisque dès que quelque chose dans notre organisme ne fonctionne pas bien, notre organisme doit réagir. C'est comme ça qu'on s'est adapté. Et il s'est trouvé aussi aujourd'hui qu'on a un système d'adaptation qui n'a pas beaucoup évolué depuis l'âge préhistorique. C'est-à-dire qu'à l'époque, on devait réagir à des événements qui sont stressants, mais des événements qui étaient beaucoup plus stressants que ce qu'aujourd'hui, puisqu'on risquait notre vie. C'est pour ça qu'on dit que le système sympathique, cette branche qui est notre accélérateur, déclenche les éléments de survie. Et donc, nous, aujourd'hui, on a des stress qui sont beaucoup moins importants, mais on a toujours ce foutu système, qui est très puissant. Et donc, on arrive à dérégler de manière récurrente ce système nerveux autonome avec toutes les conséquences dont on a parlé. Donc, la cohérence cardiaque est un outil ultra simple. C'est David Sarran-Schreiber, d'ailleurs, qui l'a fait connaître en France. Donc, c'est une technique de respiration où on va respirer sur 5 secondes ou 5 secondes et demie maintenant, puisqu'on est en train d'évoluer. Et on va aussi donc expirer dans un même temps. Et quand on fait ces exercices respiratoires, on s'aperçoit, en technique de biofeedback, c'est-à-dire quand on est branché sur un ordinateur, on voit très bien que notre système nerveux autonome se recentre. Donc, ça n'est pas... Là, on va pas guérir, on n'est pas dans un cadre de guérison, ce n'est pas un médicament. C'est simplement quelque chose qui va au fil de l'eau, et quand on le pratique régulièrement, parce que c'est une pratique, eh bien, on arrive à recentrer son système nerveux autonome assez rapidement. Et si on pratique ça régulièrement, ce recentrage se fera plus vite. Donc ça, c'est une technique toute simple que nous, on applique au terme d'Alvar avec beaucoup de succès. Elle est simple, elle est gratuite.
Elle est rapide, c'est
5 minutes. Elle est très très rapide, puisque ouais, c'est des exercices qui durent 5 minutes. Alors après, elle peut être utilisée dans un cadre, je dirais, plus psy par des professionnels, par des médecins, sur des périodes beaucoup plus longues pour faire des techniques contre les traumatismes, etc. Mais dans un cadre, je dirais, quotidien, vous faites ça trois fois par jour et vous arrivez à avoir une pratique un peu comme du footing qui va vous permettre d'avoir un système nerveux autonome qui va être plus réactif. Voilà, ça ne guérit pas tout, ce n'est pas fait pour ça. Simplement, ça vous permet d'avoir une adaptation plus grande. Voilà. Et donc la méditation, elle, est quelque chose de, je dirais, qui va travailler plus sur un niveau de terrain, c'est-à-dire qu'on va travailler plus en profondeur. C'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus difficile à mettre en place, parce qu'avant que la méditation soit vraiment efficace, il faut quand même travailler longuement. Donc la cohérence cardiaque, c'est un rapport investissement-bénéfice qui est vraiment très bien sur le système nerveux autonome.
J'aimerais qu'on parle d'un autre traitement, docteur Neumoller, avec vous, qui est pratiqué dans certains établissements, dans certains hôpitaux et cliniques, qui existe depuis une dizaine d'années, c'est la stimulation transcrânienne. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous avez des retours déjà sur des retours sur cette technique appliquée aux fibromyalgiques?
Alors, la stimulation magnétique transcrânienne, il y a quelques établissements hospitaliers qui ont cet appareil. C'est un système c'est une technique qui, avec une bobine, on vous met une bobine sur le crâne, et cette bobine envoie un courant électromagnétique qui se transforme en courant électrique et qui génère une excitabilité des neurones sous-jacents. Donc on sait qu'on a des centres de la douleur avec des zones spécifiques au niveau cérébral qui gèrent la douleur, son activation, son inhibition. Et par cette stimulation magnétique qui devient une stimulation électrique, on va stimuler les sites sous-corticaux dans les sites dédiés à la prise en charge de la douleur. Alors, c'est une technique qui marche très bien dans certaines indications, notamment dans toutes les douleurs neuropathiques. Les douleurs, par exemple, la neuropathie, c'est quand des fibres sont abîmées, la neuropathie du diabète, d'une sciatique, tous les accidents où on a des nerfs lésés. Donc, dans la neuropathie, dans la douleur neuropathique, c'est une technique qui marche très bien, qui est reconnue. Et après, ça a été étudié dans d'autres indications, dont la fibromyalgie. Donc, il y a quatre classes de résultats A, B, C. Dans la fibromyalgie, on dit que ça a une classe de résultats B. Donc, ça a effectivement montré une efficacité sur la douleur, mais aussi sur la qualité de vie, sur le sommeil. Le problème, c'est que c'est une technique qui est encore rare. Comme il y a des indications qui marchent très bien, comme les douleurs neuropathiques, eh bien, les centres peut-être favorisent certaines techniques qui ont une recommandation plus importante. Et puis surtout, il y a peu d'appareils. Les fibromyalgies, on sait que c'est 2 à 4%. Il y a beaucoup de patients fibromyalgiques. Et on a beaucoup de difficultés à entrevoir qu'on puisse proposer actuellement cette technique de façon simple. Mais peut-être que ça va se développer. C'est une technique, en tout cas, qui est non-invasive. Il y a quand même quelques effets secondaires, notamment des céphalées. Et puis, c'est contre-indiqué en cas d'épilepsie. Mais voilà, c'est peut-être...
Puisqu'on évoque un petit peu les prises en charge maintenant multidisciplinaires qui peuvent améliorer le quotidien des fibromyalgiques, quel est l'intérêt de pratiquer l'activité physique alors qu'on est perclus de douleur? Et je crois que vous aviez des programmes de rééducation à l'effort, réadaptation à l'effort.
Oui, j'ai travaillé au sein de la douleur, mais j'ai travaillé aussi en rhumatologie au CHU de Grenoble. Et il y a une vingtaine d'années, on passait un petit peu pour des illuminés. On a monté un centre de réadaptation à l'effort pour les patients souffrant de fibromyalgie. Donc à l'époque, si on commençait, il y avait quelques articles déjà sur l'intérêt de la réadaptation à l'effort. Alors c'est vrai qu'on a du mal parfois à comprendre qu'on est fatigué, on a mal, on est raide, on a une fatigue dès qu'on marche 5-10 minutes et qu'on va aller faire de la réadaptation à l'effort. Mais clairement, les retours des patients et les études cliniques montrent que l'activité physique est indispensable. Donc dans cette recommandation de l'EULAR de 2016, donc ces recommandations européennes, c'est le seul outil thérapeutique qui fait l'objet d'une recommandation forte pour son efficacité. Donc c'est 12 pays qui ont pris 3000 études, ils en ont retenu quelques centaines de bonnes études, et sur ces études, ils ont montré que seul l'exercice physique ressort en termes d'efficacité. C'est pas seulement l'efficacité sur la douleur, parce que parfois la douleur ne bouge pas, mais ça peut être une efficacité sur la confiance en soi, sur la possibilité de voir que même si on est fatigué, qu'on a mal, on peut quand même faire des choses, peut-être faire des choses différemment. Et nous, ce programme, donc il y a associé la réadaptation progressive sur vélo, il y a la balnéothérapie. C'est vrai qu'on a aussi de la sophrologie et de l'ergothérapie, donc le travail sur les postures. On a des kinés qui sont très informés de cette pathologie, puisqu'ils la suivent depuis une vingtaine d'années, donc ils savent aussi donner des outils comportementaux. Et moi, ce que je travaille aussi beaucoup avec eux et en consultation, c'est les rythmes. Parce que tout à l'heure, vous disiez, la dame qui vient vous voir, je rechute ma fibromyalgie. Vous avez dû constater que c'est vraiment une pathologie où on a des hauts et des bas. Ce qu'il faut éviter, c'est d'aller à fond quand on va bien, mais c'est de se dire que quand on va pas bien, c'est la fin du monde et qu'on revient en arrière. On revient pas en arrière, on avance. C'est comme un diabète qui ferait une poussée entre 1 et 3 grammes. Il faut vraiment se dire, quand je vais bien, ben, j'évite de mettre tout mon capital d'un coup. Quand je vais pas bien, j'essaye quand même de faire et de le gérer. Et je valorise aussi, on valorise beaucoup aussi, et je crois que la médecine y vient aussi, c'est de valoriser la partie saine. En médecine, on parle toujours de ce qui ne va pas, mais on arrive maintenant à dire qu'il faudrait valoriser la partie qui marche, parce que les patients croient qu'il n'y a plus rien qui marche souvent. Je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça. Mais il y a des choses qui marchent. Et il faut retrouver ces choses qui marchent. Il faut peut-être les faire différemment, hein, peut-être moins vite, différemment. Retrouver du plaisir, être peut-être plus contemplatif. Alors, ce n'est pas toujours simple, vous me direz, quand il faut bosser, qu'il faut s'occuper de la famille, qu'on rentre, qu'on est fatigué. Mais on sait, vous parliez de la neuroplasticité d'un système de cerveau. On sait que notre cerveau, il n'est pas fixé, il est malléable. On sait que nos neurones, ils peuvent se modifier, ils peuvent changer de circuiterie. Et ces changements, cette malléabilité du cerveau, on peut la favoriser en vivant l'instant présent, la pensée positive, en gardant de l'activité physique. Et l'activité physique, ce n'est pas uniquement l'observation. On a vu par les études que l'activité physique sécrète nos propres morphiniques et notre propre sérotonine. Donc, au niveau des neuromédiateurs, on a montré que ça pouvait sécréter des choses qui nous font du bien. Voilà.
Donc l'exercice physique, si je vous suis bien, est bénéfique, mais on ne peut pas reprendre toute activité physique, bien évidemment.
Alors attention, d'une part, il n'y a pas un seul patient, il y a plusieurs patients. Oui. Hein, je vois tout à l'heure, il y a des personnes avec des béquilles, j'ai des personnes... On ne va pas dire, allez tous faire... Par exemple, ce programme n'est pas adapté à tout le monde, on ne va pas pouvoir le proposer à tout le monde. Mais peut-être, chacun à sa façon, peut-être se dire, bah, au lieu de rester toute la journée à la maison, je vais commencer par 5 minutes. Je vais peut-être faire mon vélo électrique quelques minutes, je vais faire 5-10 minutes d'étirement. Il faut y aller par petits bouts. Et après, dans les activités du quotidien, je donnerai un exemple. Autrefois, j'ai vu une patiente, elle avait un vécu très difficile de sa pathologie. C'est une dame qui est en couple, qui a 2 enfants, qui travaille, qui a dû passer à temps partiel, puis en invalidité partielle, mais qui continue à mi-temps. Et elle disait, au début, je ne faisais plus rien. Je travaillais, je rentrais, je ne pouvais même plus m'occuper de mes enfants. Et elle dit, l'autre fois, je suis partie à Paris avec mon conjoint. Elle a la chance d'avoir un conjoint qui comprend, ce qui n'est pas toujours effectivement le cas. L'environnement est primordial dans ce tableau. Et elle a dit, on a visité Paris, mais on a fait différemment. Avant, on aurait fait ça, puis ça, puis ça. Et bien là, non, on est rentré à l'hôtel. J'ai fait une sieste. Et puis, il y a certains trajets que j'ai fait. J'ai pris un taxi parce que je ne pouvais plus. Et je suis allée à Paris, j'ai fait différemment, mais j'ai fait quand même. Et peut-être se dire qu'il faut réinventer un peu sa vie, son chemin, et revaloriser peut-être même des choses que vous n'auriez jamais envisagé d'apprécier avant. Alors, je sais que c'est des mots, mais c'est du vécu du quotidien, d'expression de patient, de ce qu'on nous dit en consultation. Mmh.
Docteur de Nossac, c'est peut-être un lieu commun, mais pour tendre vers un mieux-être, on parle souvent d'avoir une bonne hygiène de vie, de tendre vers cette bonne hygiène de vie, mais qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Et qu'en est-il de l'importance de la supplémentation en vitamine D pour un patient fibromyalgique? Et qu'est-ce que vous nous conseillez? Comment on prend cette vitamine?
Quand on observe les facteurs qui permettent de vieillir dans des bonnes conditions, même en regardant la longueur des chromosomes avec des télomères, on s'aperçoit qu'il y a 3 éléments qui interviennent, qui sont l'activité physique, je trouve que c'était très bien d'en parler d'abord, la méditation, alors après on peut discuter sur les formes de méditation, et la nutrition. Après, il reste à s'entendre sur ce que c'est que de bien manger. Donc je pense que la nutrition aujourd'hui a fait ses preuves pour l'espérance de vie, donc dans toutes les pathologies, je crois que personne ne peut ignorer l'importance du manger bien, et en sachant qu'on doit individualiser sa nutrition. Alors ça c'est pour le côté général. Après, sur la vitamine D, ça fait partie des quelques vitamines qui ont été aujourd'hui retrouvées dans pas mal d'études. Alors il n'y a pas tout le monde, parce qu'il y a un problème de où est-ce qu'on fixe le cut-off. La vitamine D est une vitamine un peu particulière. D'abord, ce n'est pas tout à fait une vitamine puisqu'on la fabrique en partie. Et ensuite, c'est une espèce d'élément trophique qui améliore le fonctionnement de tous les tissus. Donc, bien entendu, quand vous avez quelqu'un qui a mal, que l'origine soit cérébrale, puisqu'on est un peu consensuel sur le côté neurologique de la fibromyalgie, eh bien forcément, si vous avez un déficit en vitamine D, que vous fassiez de la prévention de l'Alzheimer ou que vous fassiez de la prévention de fibromyalgie ou du Parkinson, la vitamine D demeure importante. Donc voilà, à ce titre-là, il est important d'avoir un bon statut en vitamine D. Aujourd'hui, on a des outils pour le faire, je crois qu'on va mettre ça comme ça.
Et quid de la supplémentation en magnésium? Alors je précise, docteur Tournesac, que vous êtes déjà intervenu sur ce sujet lors de la journée mondiale de la fibro qui est organisée par l'association Fibromyalgie SOS en 2012. On peut d'ailleurs retrouver votre intervention sur le site de l'association. Et j'aimerais avoir le point de vue également de M. Thomas, hein, qui collabore, on l'a dit ce matin, avec le docteur Curté, qui a co-écrit un livre dans lequel il insiste, docteur Curté, sur l'efficacité du magnésium et de la vitamine D. Alors quels sont les apports en magnésium? Lesquels conseillez-vous? Quelle fréquence? L'un et l'autre.
Comme j'ai le micro, je vais le garder.
Gardez-le.
Il y a une petite expérience qui est assez intéressante quand on parle du magnésium. Si vous prenez une souris, que vous la privez de 30% de ses apports en magnésium, ce qui représente 70% de la population française, hein, donc ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel, cette souris devient hypersensible au bruit. Et quand on parle de douleur, on a parlé d'hypersensibilité. Donc le concept d'hypersensibilité est très difficile à dissocier du magnésium, autant chez l'animal que chez l'être humain. On parlait tout à l'heure de la kétamine et des récepteurs NMDA qui étaient leur cible, Bien, il faut savoir que les récepteurs NMDA sont modulés par la quantité, le statut en magnésium. Donc si vous manquez de magnésium, vos récepteurs NMDA vont moins bien fonctionner. Et plutôt que de donner de la kétamine qui peut-être va être un peu brutale, on peut peut-être s'intéresser. Enfin, moi, je suggère qu'on s'intéresse au magnésium avant de prescrire de la kétamine. Donc je fais une réponse un peu générale. Après, je repasse. Dernière chose. C'est vrai que c'est toujours la question dans toutes les conférences, quel magnésium faut-il donner, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur, etc. Donc, petite expérimentation qui est française, donc, qui a été faite par l'INRA de Clermont-Ferrand, encore une fois sur des souris, je suis désolé, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expérimentations très bien faites chez l'humain. En fait, ça ne fait pas si longtemps qu'on s'intéresse vraiment au magnésium. On a pris des souris déficitaires en magnésium, et on s'est aperçu que globalement, quel que soit à peu près le type de magnésium qu'on leur administrait, on avait un statut en magnésium qui serait équilibré avec pratiquement toutes les sources de magnésium. Si vous prenez des souris qui ne manquent pas de magnésium, effectivement, si vous voulez augmenter la présence de magnésium dans les cellules ou dans le corps humain, là, effectivement, interviennent certaines formes que certains laboratoires mettent en avant. Après, il y a tout le problème de la tolérance. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire, je pense que l'important, c'est déjà d'en prendre. Pas pour 100%. Hein. Il y a bien 10 à 20% des patients qui souffrent de fibromyalgie qui ne sont pas du tout améliorés, voire même aggravés par le magnésium. Et donc, il faut le savoir. Dans les cas extrêmes, ça peut m'arriver de faire des dosages magnésium érythrocytaire. En tout cas, en prendre, et si on voit qu'on a un effet bénéfique, et surtout le prendre au long cours, parce qu'il y a toujours cette espèce de croyance de la cure de magnésium. Le magnésium, pour avoir un effet bénéfique, on sait aujourd'hui que c'est à peu près 3 semaines. Donc la cure d'un mois, vous avez commencé à avoir l'effet pendant la dernière semaine, ensuite vous allez arrêter, vous allez recommencer à aller mal. Le temps que le médecin s'aperçoive qu'il faut vous redonner du magnésium, il s'est passé quelques semaines, il va falloir encore 3 semaines pour que ça remonte, et ainsi de suite. Donc, vraiment, aujourd'hui, si le magnésium fait un effet bénéfique, surtout continuez-le au long cours. Voilà.
C'est la pierre angulaire.
Je te laisse aller plus loin sur les types de magnésium.
Justement, je crois que le docteur Cuté dit que c'est un peu, et même oui. Vous-même, c'est la pierre angulaire du traitement fibromyalgique.
Oui, bah, pour Jean-Paul Cuté, oui, hein, parce qu'il part d'un constat, lui, je dirais, tout simple, en disant que il faut, grosso modo, aujourd'hui, 400 mg de magnésium jour, magnésium élément jour, pour être relativement équilibré, et que notre alimentation, aujourd'hui, qui fait à peu près entre 1700, 2000, voire 2200 calories, si on a cette alimentation correcte, je dirais pas forcément bio, mais disons tout à fait équilibrée, en privilégiant les circuits courts, en mangeant, je dirais, des fruits et légumes, etc., on en récupère entre 200 et 240. Donc vous voyez qu'il y a déjà un déficit, je dirais, chronique, qu'on retrouve dans les chiffres que vous venez de citer. Hein. Donc, lui, il part du principe que la supplémentation en magnésium, il n'y a pas besoin de faire de dosage, d'ailleurs, hein, il faut la faire. Et il est partant pour, notamment en cas de la fibromyalgie, sur un traitement de 900 mg de magnésium par jour et pendant 18 mois. Lui, c'est vraiment, c'est plus que du long cours, et surtout avoir un traitement qui est un traitement régulier sur la journée. C'est pas je vais me prendre ma grosse dose de magnésium le matin et puis après je mets ça le lendemain matin. Non, c'est plutôt de dissocier le magnésium sur toute la journée. Voilà, hein, c'est de prendre en 3 prises. Voilà. Alors après, au niveau des types de magnésium, il en existe plein. Il y a beaucoup de catégories. Il y a beaucoup de. Je dirais aujourd'hui, on dit que le glycérophosphate de magnésium, qui est liposoluble, donc qui est soluble dans les graisses, serait celui qui devrait être le plus assimilable. Mais là, je rejoins un peu ce que vous dites aussi. Je crois qu'il faut faire son miel, il faut essayer et il faut voir ce qui vous convient le mieux. Parce qu'il y a des magnésiums qui, effectivement, vont entraîner des troubles digestifs relativement puissants, notamment les anciennes générations de magnésium. Et il faut que ces magnésiums sont associés à d'autres éléments pour que ce soit mieux fixé sur la cellule, mieux assimilé. Voilà ce que je voulais dire sur le magnésium.
Puisqu'on parle du rôle que l'alimentation peut jouer sur ces symptômes, qu'en est-il de l'alimentation hypotoxique, du gluten, du lactose, et qu'il faut supprimer tout ça de son alimentation? Ou c'est trop complexe et c'est vraiment au cas par cas, docteur Tournesac?
Ça, c'est la question piège.
Que je pose forcément.
Que tout le monde se défausse.
Oui, oui.
Je te passe les
mots. Allez-y.
C'est à la fois une question piège et à la fois c'est une bonne réponse, parce que quand on écoute, et dans les sondages, dans les enquêtes sur les personnes qui souffrent de fibromyalgie, qu'elles soient faites aux États-Unis ou qu'elles soient faites en France, on voit bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ressenti un effet bénéfique de trouver une alimentation qui leur convienne. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui nier ça. Et avec des tests, aujourd'hui, le seul test vraiment validé, c'est ce qu'on appelle le test d'éviction-réintroduction, c'est-à-dire que vous arrêtez quelque chose, vous allez mieux, vous le réintroduisez, vous allez de nouveau mal. La période est discutable pour certains, elle va de une semaine à un mois, on va dire 15 jours, 3 semaines pour couper la poire en deux. Mais disons que s'il n'y a pas d'effet bénéfique du tout, vous savez que vous êtes à côté de la plaque. Alors ça, c'est la première chose. Sachant que toutes les analyses de sang, je suis en train de refaire pour une conférence encore une bibliographie là-dessus, et en particulier un test qui est très vendu aujourd'hui, qui s'appelle les IgG alimentaires, tout ça, c'est du domaine de l'escroquerie, puisqu'on a démontré la non-utilité et la non-pertinence. Donc je suis désolé d'être aussi formel là-dessus, mais on est dans l'escroquerie aujourd'hui, puisque quand on continue à pratiquer un test qu'on a démontré comme inutile, il faut appeler un chat un chat. Donc malheureusement, on n'a pas de test très très pertinent, à part pour la maladie cœliaque. Donc on a aujourd'hui ces expériences avec les FODMAPs, je connais bien Bruno Bonaz qui en a discuté. Il y a tout un tas de stratégies, on peut tester effectivement. C'est vrai qu'en première ligne, on trouve souvent le gluten et la caséine, parce que ce sont des protéines un peu difficiles à digérer. Le lactose, qui est un deuxième contenant du lait, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément une très bonne capacité de digérer le lactose. Donc on va un peu ça en tête de liste. Après, pensez aux sulfites, hein, tout bêtement. Les sulfites, il y a énormément de gens qui sont intolérants aux sulfites. On sait que ça donne des maux de tête, des douleurs articulaires. Et les sulfites, vous en avez dans le vinaigre, la moutarde, les plats préparés, les cacahuètes que vous achetez et le vin. J'allais finir, mais c'est toujours difficile d'attaquer le vin. Mais il y a aujourd'hui des très bons vins qui sont faits sans ce qu'on appelle sans sulfite ajouté. Ouais. Mais pensez aux sulfites, parce que moi, je trouve très souvent des intolérances aux sulfites et les gens n'y pensent pas. Et la deuxième chose, c'est aussi souvent sur les graisses cuites. Les gens mangent trop de fritures, beaucoup de fritures, et très souvent, on va retrouver des gens qui ont des troubles digestifs avec des conséquences de fatigue, parce qu'ils mangent trop de choses frites, cuites. Donc, je ne suis pas forcément un partisan des crudités, mais je pense que une petite alimentation vapeur, surtout si on a un régime un peu... et puis en mettant l'huile dans son assiette, une bonne huile d'olive colza, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus adapté.
Docteur Dumollard.
Je dirais aussi que on ne peut plus dire que l'alimentation ne joue pas sur les symptômes, il ne faut vraiment pas écouter les patients, parce qu'effectivement, ce n'est pas tout le monde, hein, les personnes, rien ne changera au niveau de l'alimentation, il y a des personnes qui ne seront pas du tout sensibles au changement d'alimentation. Donc y a, pareil, il ne faut pas faire un dogme. Après, c'est vrai que des personnes qui ont beaucoup de colopathie, il y a souvent des adaptations d'alimentation qui peuvent les améliorer, et ça, c'est parfois de façon importante. Alors c'est vrai, avec moins de gluten et laitage, notamment de vache, on dit. Alors avec on tâtonne, hein, moi j'ai l'impression que j'apprends, c'est mes patients qui m'apprennent, hein, depuis quelques années. Et avec le recul, mais ça ne m'appartient, hein, peut-être mes collègues ne seront pas... Moi je ne suis pas, avec justement le recul, je ne suis pas très... Je ne conseille pas l'éviction stricte. Quand on réagit au gluten et laitage, je ne conseille pas forcément l'éviction stricte. Parce que ce que je constate, c'est qu'après, dès qu'on fait un mois de Ricard, c'est l'explosion complète du corps, brûlure, colopathie, etc. Et après, socialement, puis je dirais, sur le plan du plaisir de la vie aussi, hein, d'un bon petit repas, de sortir, c'est parfois difficile. Après, on est un peu enfermé. Ceci dit, j'ai des patients qui font des exclusions strictes et qui vivent ça très bien, et bien continuez. Mais maintenant, si c'est à conseiller à mes patients, je dirais peut-être au départ d'essayer d'enlever peut-être un ou deux mois bien, et puis après de réintroduire un petit peu, et peut-être de le faire au maximum, mais de se laisser la liberté d'écart. Et puis peut-être qu'on est en train de voir aussi du côté de l'industrie du complément alimentaire les mêmes travers qu'on voit un petit peu du côté de l'industrie du médicament, beaucoup de laboratoires qui viennent. Et beaucoup de frais aussi, c'est cher, on ne sait pas trop quoi donner, que donner. Et je pense qu'il va falloir avoir une réflexion sur mieux utiliser ce qu'on a à la base. Mmh. Les probiotiques, il y a des tas d'aliments fermentés, comme la choucroute, qui sont beaucoup plus riches en probiotiques que 36 000 gélules. Je peux donner des probiotiques, mais peut-être réfléchir. Les oméga-3, l'huile de colza, les sardines. Il faudrait peut-être reprendre la base de notre alimentation.
Et monsieur Thomas là-dessus et monsieur Dorlecin.
Avant de lui passer la parole, une dernière chose aussi sur les évictions alimentaires. si jamais vous avez un tempérament où vous vous êtes identifié un peu comme phobique, que vous n'aimez pas trop entrer dans les ascenseurs, que vous avez une tendance à développer des choses autour de la phobie, faites très attention, ou en tout cas faites-vous accompagner dans un régime de ce type-là, parce que en fait, le principe de la phobie, et notre psychiatre me confirmera ou infirmera ce que je vais dire, est basé sur un comportement d'évitement. Et donc, dès que je vais rajouter de l'évitement alimentaire, je vais augmenter mon degré d'anxiété, ce qui va aggraver mon état émotionnel, ce qui va aggraver mon état, ce qui risque à terme de me faire dire que je vais encore plus mal, donc il faut que j'arrête encore plus d'aliments. Et on voit des patients aujourd'hui qui rentrent dans des évictions alimentaires multiples, très injustifiées. Et donc, il faut, oui, ça peut apporter beaucoup de bien-être, mais attention, attention, et faites-vous accompagner par un diététicien, un médecin, réfléchissez. Et je crois que là, il y a vraiment matière à faire.
Monsieur Thomas, là-dessus, quelles sont vos préconisations et celles du docteur Curté? Il faut éviter tous les éléments pro-inflammatoires.
Voilà, disons que dans un premier temps, je rejoins tout à fait ce que dit Anne. Il ne faut pas se jeter sur toujours se complémenter à tout prix. Je crois qu'il faut déjà rechercher dans une alimentation équilibrée et plutôt de type anti-inflammatoire, donc avec des aliments qu'on connaît peu. Par exemple, on parle beaucoup du curcuma aujourd'hui. Mettre du curcuma avec un peu de poivre et de l'huile, on mélange ça et on a un élément qui est très bon pour tout ce qui est anti-inflammatoire. Donc, travailler, et c'est ce qu'on essaie nous d'apprendre aussi en cure, sur la mise à plat de l'alimentation dans un premier temps, donc avec une alimentation anti-inflammatoire, et effectivement privilégier le rééquilibrage via l'alimentation que forcément via des gélules. Voilà, donc ça c'est notre préconisation de base. Après, effectivement, le travail sur l'intestin, je crois qu'il y a quelque chose de primordial, parce qu'on arrive à développer des perméabilités intestinales qui vont entraîner des tas de choses qui peuvent devenir douloureux aussi. Et puis avec un intestin qui fonctionne mal, derrière, on assimile mal les choses. Donc la base de la base, c'est déjà de travailler effectivement sur notre deuxième cerveau. Et il est même démontré aujourd'hui qu'il y a un rapport direct entre l'intestin et le cerveau et qu'on peut presque arriver à travailler sur des dépressions en travaillant sur l'intestin. Donc moi, n'étant pas médecin, je ne me permets pas de donner de quoi que ce soit, mais a priori, c'est ce que j'ai pu lire. Donc voilà, l'alimentation, c'est vraiment quelque chose, c'est la clé de voûte de la base, les fondations du travail qui est à mener.
Juste avant de vous donner la parole dans la salle, affûtez vos questions micro et papier. Vous les faites passer toujours à Nadine et Ghislaine qui sont au premier rang. N'hésitez pas à nous les transmettre. J'ai envie de vous entendre, docteur Gignès. Alors, on ne va pas parler des sulfites dans le Pic Saint-Loup. Je ne sais pas si ça se fait sans Pic Saint-Loup. Il n'y a plus de sulfites dans le Pic Saint-Loup? Bon, alors c'est une bonne info que je retiens, à boire avec modération évidemment. Les bienfaits, non pas du Pic Saint-Loup, mais de la musicothérapie, de l'art-thérapie. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu.
Oui, c'est vrai, dans les prises en charge complémentaires, comme on vient de citer, nous, depuis 12 ans, on a mis en place ces deux types de musicothérapie, c'est-à-dire autre voie de sensorialité,
du menton, voilà.
Autre voie de sensorialité pour faire découvrir qu'il y a des capacités de réharmoniser ce système intérieur par autre chose que des médicaments ou des comportements. Et c'est vrai que, qu'on aime ou pas la musique, se mettre dans cet état, peut-être qu'il y a aussi une façon de reprogrammer cardiologiquement. Dans des écoutes dont vous avez choisi les modèles de musique et qui, pour une de ces parties de musicothérapie, c'est une musicothérapie en montage en U, c'est-à-dire que cette musique de 20 minutes commence avec une fréquence normale et puis en quelques minutes, elle descend d'intensité et surtout de lenteur et remonte au bout de 20 minutes à un niveau inférieur au début. Et bien ça, c'est comme une respiration, mais par la musique. Ça a été prouvé par le jeune qui fait de la musicothérapie depuis 10 ans, là, actuellement 12 ans, et qui a montré que scientifiquement, on arrivait à une régulation, une partie de la régulation de la douleur par cette musicothérapie. Après, il y a des deuxièmes ateliers de musicothérapie active, où le patient, là, interagit, qu'il soit musicien ou pas, avec des instruments, de la voix, du chant, là aussi, pour réharmoniser par notre canal ces systèmes de réglage de tension musculaire, décontraction, aspect rêverie. Dans l'acte de la vie quotidienne, le fibromyalgique est peut-être trop concentré. Pendant 20 ans, il a été concentré au point de ne pas sentir qu'il y a autre chose dans ce que vous faites. Autour, il y a des éléments qui sont peut-être plus à ne pas contracter. Je prends souvent l'exemple du 100 mètres des Jeux Olympiques, où les noirs courent décontractés. Vous voyez Usain Bolt. Et le blanc, le maire, là, c'est le maire qui s'appelle. Hein, le maire court crispé. Qui c'est qui arrive le premier? Bon, c'est culturel, c'est biographique, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc on peut faire autant, voire plus que le fibromyalgique avant qu'il soit fatigué, mais sans se fatiguer. Et c'est ça qu'il faut découvrir et réapprendre, ce qui n'est pas facile du tout. Et pareil pour les compléments alimentaires, si je peux me permettre.
Bien sûr.
Il vaut mieux mettre beaucoup d'argent dans un pain bio à circuit court, un pain qui serait fabriqué avec des anciennes farines. Il y a de l'inflammation partout, dans le ventre et dans les articulations. On est tous en état d'inflammatoire. Le fibromyalgique ne supporte plus cet état-là. Donc s'il mange les farines avec le bon pain blanc qui a gonflé parce qu'on a coupé le gluten en petits bouts pour qu'il soit plus facile à vendre, là, ben, il n'est pas facile à digérer. Tandis que le pain d'avant, ils en prenaient un kilo ou deux.
Le petit épeautre.
Et voilà, c'est quelque chose qui était... Peut-être on mange moins parce qu'il a plus de goût, il est plus cher, mais on en mange moins, donc ce n'est pas plus cher. Et vous avez moins de processus inflammatoires naturels. Et là, à ce moment-là, et on allège la quantité de pain, mais pas, l'exclusion n'est pas en soi la problématique. Et donc aussi, on perd 3 kilos. Le côté...
cercle vertueux, finalement.
Voilà, on perd 3 kilos, enfin, on essaie aussi de perdre 3 kilos, parce que ça diminue l'inflammation de fond, pas l'inflammation pathologique, mais l'inflammation de fond. Donc c'est des petits compléments qui ne sont pas alimentaires, mais ils sont compléments comportementaux.
Puisqu'on parlait d'alimentation, on va nourrir notre discussion et l'enrichir à l'aide de vos questions dans la salle. Les questions micro, tout d'abord, deux micros circulent, n'hésitez pas à vous manifester clairement, la lumière va se faire dans la salle, et puis vous continuez à faire passer évidemment vos questions papier à Ghislaine et Nadine, et puis nos bénévoles ici présentes qui souhaitent réagir. On ouvre une session de 20 minutes de questions, donc merci d'être concis dans la formulation pour qu'on en prenne un maximum. Bonjour, présentez-vous.
Bonjour.
Où êtes-vous ?